Philippe Migaud, bonjour.
Bonjour.
Le 2 mars dernier, le chef djihadiste malien Iyad Agrali a annoncé la fusion de son organisation avec deux autres. Peut-on parler d'un simple coup médiatique ou d'une démonstration de force ?
S'il s'agit d'une démonstration de force, on a d'abord un coup de provocation parce que les plus importants chefs sahéliens de la rébellion aujourd'hui n'hésitent pas à violer leurs règles de sécurité, de clandestinité pour faire cette vidéo. On est sur une dimension principalement médiatique parce que ces groupes, ils collaborent régulièrement depuis décembre 2015. Ils avaient intensifié leurs attaques de proximité contre les forces de la MINUSMA, mais aussi ils avaient fait des frappes contre des postes isolés des forces de sécurité ou des responsables de l'administration au Burkina Faso, au sud du Mali et au Niger. L'objectif, c'est de rappeler que les partisans de la mouvance Al-Qaïda gardent une présence dominante au Sahel pour contrer la montée en puissance dans la région de l'État islamique.
Et ces nouveaux alliés d'Iyad Agrali, ce sont des chefs djihadistes qui ont une certaine influence dans la sous-région ?
Ah oui, ce sont les plus importants. Vous avez Yahya Aboulamam qui est l'émir d'Akmi Sud. Vous avez Amadou Koufa qui est l'émir du Front de Libération du Massila.
Ça, c'est au centre du Mali ?
C'est au centre du Mali, c'est la population Peul. Et enfin, vous avez Hassan Al-Ansari qui est le numéro 2 du mouvement de Mokhtar Belmokhtar.
Et alors, cette alliance du 2 mars dernier, c'est, je crois, une nouvelle déclaration de guerre, à la fois contre les régimes en place et contre le grand rival djihadiste qui est devenu ces derniers mois le groupe État islamique.
Oui, parce que la montée en puissance de l'État islamique, elle se poursuit d'abord en Libye. On a cru que les combattants de Sirte avaient été neutralisés. En fait, 3000 d'entre eux ont survécu et se sont éparpillés sur la Libye. Vous avez 600 d'entre eux qui sont des combattants tunisiens qui veulent revenir dans leur pays d'origine pour y commettre des attentats. Et vous avez une partie des combattants étrangers qui se dirigent aujourd'hui vers le sud dans la région d'Oubari, d'où ils font peser une menace plus importante contre le nord du Niger.
Est-ce que le groupe État islamique ne se manifeste pas aussi de plus en plus au Maghreb ?
Il se manifeste non seulement au Maghreb, mais au Mali. Au Mali, vous avez un groupe dissident d'Al-Morabitoun qui a fait allégeance sous le nom de province du Grand Sahara et qui menace l'Est nigérien. Mais c'est évident qu'au Maghreb, il a des progrès constants. En Algérie, vous avez Sikatiba d'Akmi qui ont fait allégeance à l'État islamique. Et plus inquiétant encore, vous avez la présence régulière de petits groupes de l'État islamique dans les villes algériennes, alors que les services de sécurité algériens avaient réussi à stopper tout terrorisme urbain depuis 2008. Or, à Constantine, vous avez eu le 25 mai dernier un attentat suicide échoué contre un commissariat, mais 15 jours plus tôt, ils avaient réussi à tuer un policier dans la zone. Et au Maroc, c'est encore plus inquiétant, on s'aperçoit qu'au Maroc, il y a une trentaine de groupes liés à l'État islamique qui ont été démantelés en 2 ans, alors qu'ACMI, sur place, n'arrive pas à reconstituer ses réseaux.
Alors revenons maintenant à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Comment se fait-il, Philippe Migaud, que Mokhtar Belmokhtar ne soit pas apparu dans la vidéo du 2 mars dernier et que son nom n'ait même pas été mentionné par Iyad Agrali ?
Cela semble confirmer la mort de Mokhtar Belmokhtar dans un bombardement fait par les forces françaises le 14 novembre dernier en Libye, qui aurait atteint sa cible. Et la mort de Mokhtar Belmokhtar, c'est un coup très dur pour la mouvance Al-Qaïda, parce que seul Mokhtar Belmokhtar avait le réseau relationnel qui lui permettait d'avoir des capacités de projection à long terme d'opérations contre des cibles molles, fréquentées par des expatriés, comme l'attaque de Grand Bassam il y a juste un an en Côte d'Ivoire. En même temps, Al-Morabitoun avait réussi à se recentrer sur des attaques de proximité de grande ampleur, comme elle l'a fait le 17 janvier dernier avec l'attaque de Gao, qui a fait une soixantaine de morts, dans les rangs des ex-rebelles et des militaires maliens qui forment les futures patrouilles mixtes.
Est-ce que cette vidéo du 2 mars confirme le rôle central que pourrait jouer aujourd'hui Iyad Agrali dans la conduite de l'insurrection djihadiste au Sahel ?
Oui, c'est tout à fait exact. Au nord du Mali, Iyad Agrali a affermi ses liens auprès de la communauté Touareg en chapeautant les deux Katipa Touareg d'Akmi et en créant un maillage territorial par ce qu'il appelait avant sa Hizba, sa police religieuse, qui s'est transformée en un véritable service de renseignement de Kidal à la frontière algérienne. Et au centre et au sud du Mali, il a instauré un nouveau djihadisme ethnique avec les populations Peul, au sein duquel il a recruté 4 Katibat, dont le célèbre Front de Libération du Massina, représenté par Amadou Koufa, lors de la diffusion de la vidéo.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un nouveau durcissement de la part d'Iyad Agrali et de ses compagnons djihadistes ?
Oui, tout à fait. D'abord par la propagande. On se rend compte que depuis un an et demi, la société de production médiatique d'ACMI à l'Andalous, l'Andalousie, diffusait régulièrement des fines vidéos montrant des attaques contre la MINUSMA, mais en même temps des exécutions de collaborateurs civils, des Touaregs, soupçonnés d'être liés avec l'armée française. Et ces vidéos, elles étaient régulièrement montrées dans les villages du Nord Mali. Il y a eu environ 80 morts parmi la population civile qui ont été tués de cette manière. La deuxième chose, c'est qu'on a une remontée en puissance des prises d'otages, puisqu'on a aujourd'hui 8 otages, dont 3 femmes. Et ça, c'est intéressant parce que autrefois, les femmes étaient rapidement libérées par ACMI. Cette fois-ci, précise, les trois femmes ont été ciblées parce qu'elles pratiquaient des activités humanitaires dans la région et qu'on voulait éloigner la population des étrangers. Et la troisième chose, c'est l'annonce dans le communiqué du 2 mars de la création d'une seconde société de production médiatique qui va s'appeler Al-Zakala. Al-Zakala, c'est le nom arabe d'une victoire de la dynastie des Almoravides en 1086 au sud de l'Espagne contre les troupes du roi de Castille.
Donc c'est la recherche d'une nouvelle légitimité, c'est ça ?
C'est la recherche d'un nouveau positionnement et de sa légitimité sur la zone.
Philippe Migaud, merci.